Malthus. Le père de cette doctrine, Malthus, prétend que la population pèse toujours sur les moyens de subsistance. Suivant lui, quand la production augmente, la population s'accroît dans le même rapport. Cette tendance inhérente à la population de progresser en dehors de toute proportion avec les moyens de subsistance disponibles serait la cause de toute misère et de tout vice. Si les hommes sont en surnombre, il faut s'en débarrasser d'une façon quelconque, par la mort violente ou par la famine. Cela fait, le creux ainsi créé ne tardera pas à être comblé par d'autres facteurs d'accroissement de la population. La misère ancienne réapparaît. Il en est ainsi en toutes circonstances. Non seulement dans les sociétés civilisées, mais encore dans les sociétés vivantes à l'état de nature. Les sauvages d'Australie souffrent autant de la surpopulation que le peuple anglais. Bref, si nous voulons être logiques, il nous faut bien avouer que la Terre était déjà surpeuplée quand il n'existait qu'un seul homme. Les conséquences de cette doctrine sont les suivantes. Comme les pauvres sont précisément les plus nombreux, il ne faut rien tenter en leur faveur, si ce n'est de les aider à mourir de la faim le plus facilement possible. Il faut les persuader qu'il n'existe pas de remède, que leur classe ne possède qu'un moyen de salut, restreindre le plus possible le nombre des naissances. Si cette mesure ne se révèle assez efficace, il sera toujours préférable d'instituer un service public, chargé de faire périr sans douleur les enfants des pauvres. Ainsi donc, chaque famille ouvrière pourrait avoir 2 enfants et demi, ceux qui viendraient en surcroît devraient être tués sans douleur. L'aumône est un crime, puisqu'elle favorise l'accroissement d'une population déjà surabondante. En revanche, il serait fort avantageux de considérer la pauvreté comme un crime et de convertir les hospices en prison, comme cela se fait déjà en Angleterre grâce à la nouvelle loi libérale sur les pauvres. Il est vrai, cette théorie cadre très mal avec la doctrine biblique de la perfection de Dieu et de sa création. Mais, ouvrez les guillemets, c'est une pitoyable réfutation que d'opposer la Bible à des faits. Fermez les guillemets. Faut-il développer davantage? Faut-il pousser jusque dans ses dernières conséquences cette doctrine infâme, cet abominable blasphème lancé à la nature, à l'humanité? Ici, nous voyons porter à son comble l'immoralité de l'économiste. Comparé à cette théorie, que sont donc toutes les guerres, toutes les horreurs du système monopoliste? Et cependant, elle est la conclusion du système libéral, de la liberté du commerce. Sa chute entraînera la ruine de tout l'édifice. Si l'on a prouvé que la concurrence est bien la cause de la misère, de la pauvreté et du crime, qui donc osera encore lui donner la parole? Dans l'ouvrage que nous avons cité plus haut, Allison a réfuté la théorie de Malthus. Il en appelle à la productivité de la terre. Au principe malthusien, il oppose un fait. Tout homme adulte peut produire plus qu'il n'a besoin lui-même. Sans cela, l'humanité ne pourrait s'accroître, elle ne pourrait même pas subsister. Comment vivraient donc ceux qui n'ont pas encore atteint leur complet développement? Mais Allison ne va pas au fond des choses. Il aboutit, en fin de compte, au même résultat que Malthus. Il prouve que le principe malthusien est inexact, mais il ne peut nier les faits qui ont conduit Malthus à son principe. Si Malthus s'était montré moins unilatéral, il aurait vu que la surabondance de la population, ou de la force de travail, est toujours lié à une surabondance de richesses, à une surabondance de capital, à une surabondance de propriété foncière. La population n'est excessive que là où la force de production est elle-même excessive. L'état de tout pays surpeuplé, notamment de l'Angleterre, à l'époque où écrivait Malthus, le montre très clairement. Tels étaient les faits que Malthus devait considérer dans leur ensemble. Leur examen lui conduit à des résultats exacts. Au lieu de procéder ainsi, il en retient un, néglige les autres sans s'en préoccuper, il aboutit aux conclusions les plus insensées. La seconde faute qu'il commit fut de confondre moyens de subsistance et emploi. Il est vrai que la population pèse sur les possibilités d'emploi. Tant d'hommes sont employés, tant d'êtres sont également procréés. Bref, la production de la force de travail est réglée par la loi de la concurrence. Elle est soumise aux crises, aux fluctuations périodiques. Ce sont là des faits. Le mérite de Malthus est de les avoir établis. mais les moyens d'emploi ne sont pas les moyens de subsistance. Les premiers ne sont accrus que par le résultat final du développement du machinisme et du capital. Les seconds augmentent dès que la force de production grandit quelque peu. Ici éclate une nouvelle contradiction de l'économie. La demande dont parle l'économiste n'est pas la demande réelle. Ce qu'il appelle consommation est un artifice. Pour l'économiste, le véritable demandeur, le véritable consommateur, est celui-là seul qui peut offrir un équivalent en échange de ce qu'il reçoit. Mais c'est un fait, chaque adulte produit plus qu'il ne peut consommer. L'enfant, comme l'arbre, rembourse surabondamment l'avance. Ce sont cependant là des faits. On en conclura que tout ouvrier devrait pouvoir produire bien plus qu'il ne lui faut, que la commune devrait le pourvoir volontiers de tout ce dont il a besoin, qu'une famille nombreuse est un présent précieux pour la commune. Mais l'économiste a des conceptions grossières. Il ne connaît d'autre équivalent que celui qui lui est payé d'une façon palpable, en argent comptant. Il est tellement enfoncé dans ses contradictions que les faits les plus frappants ne le touchent pas plus que les principes les plus scientifiques. La contradiction tombe très simplement. Nous la supprimons. Que les intérêts, opposés aujourd'hui, viennent à se confondre, et l'opposition entre l'excès de population et l'excès de richesse s'évanouit. S'évanouit aussi ce fait merveilleux, plus étonnant que tous les miracles de la religion, le fait que l'excès de la richesse, l'excès du superflu, condamne une nation à la famine. Enfin, l'idée folle que la terre n'a pas la force nécessaire de nourrir tous les hommes perd sa raison. C'est cependant là le point culminant de l'économie chrétienne. Et j'aurais pu démontrer, pour chaque proposition, pour chaque catégorie, que notre économie est essentiellement chrétienne. Je le ferai quelques jours. Au point de vue économique, j'espère avoir montré tout le vide de cette contradiction qui n'existe plus que pour la religion et qui a disparu avec elle. D'ailleurs, je ne tiendrai pour pertinente aucune défense de la théorie de Malthus qui, partant de son propre principe, n'explique pas comment le superflu puisse condamner un peuple à la misère et comment cela puisse s'accorder avec la raison et avec les faits. Du reste, la théorie malthusienne n'est qu'une transition nécessaire. Elle nous a conduit infiniment plus loin. Grâce à elle, et grâce à l'économie en général, nous sommes devenus attentifs à la force productive de la terre et de l'humanité. Ayant vaincu le désespoir des économistes, nous sommes guéris pour toujours de la peur de la surpopulation. C'est d'elle que nous tirons les arguments économiques les plus forts en faveur d'une révolution sociale. Malthus même eut-il parfaitement raison, il faudrait tenter aussitôt cette transformation. Elle seule, et seule l'éducation des masses qu'elle permet, rend possible la limitation morale de l'instinct de reproduction, le remède le plus efficace et le plus simple qu'on puisse, suivant Malthus, apporter à la surpopulation. Malthus nous a fait connaître tout l'abaissement de l'humanité, sa dépendance des conditions de la concurrence. Il nous a montré qu'en dernier ressort, la propriété privée fait de l'homme une marchandise dont la production et l'anéantissement dépendent uniquement de la demande. Il nous a montré que des millions d'hommes ont été et sont toujours immolés par la concurrence. Tout cela, nous l'avons vu, et c'est ce qui nous pousse à vouloir l'abolition de cet abaissement de l'humanité par la suppression de la propriété privée, de la concurrence et de l'antagonisme des intérêts. Pour en finir une fois pour toutes avec cette crainte générale de la surpopulation, revenons au rapport entre la force de production et la population. Malthus part d'un calcul sur lequel il base tout son système. Supposons que la population s'accroissent en progression géométrique. 1, plus 2, plus 4, plus 8, plus 16, plus 32, etc. La force de production du sol en progression arithmétique. 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Il saute aux yeux que la différence est effroyable. Mais rien ne prouve que la capacité de rendement du sol augmente en progression arithmétique. L'extension du sol est limitée. Bien. Mais la force de travail applicable à cet espace croît avec la population. Admettons même que l'accroissement du rendement obtenu grâce à l'augmentation du travail ne soit pas proportionnel au travail employé, il n'en subsiste pas moins un troisième élément que l'économiste tient, il est vrai, pour nul, la science. Ces progrès sont aussi infinis et, du moins, aussi rapides que ceux de la population. Quels avantages l'agriculture de ce siècle ne doit-elle pas à la chimie, uniquement à deux hommes, à Sir Davy et Liebig? La science progresse au moins autant que la population. Cette dernière s'accroît proportionnellement aux chiffres de la dernière génération. La science, elle, progresse proportionnellement à la masse de la connaissance que lui a léguée cette génération. Dans les conditions les plus ordinaires, elle suivrait donc également une progression géométrique. D'ailleurs, qu'y a-t-il d'impossible à la science ? Il est risible de parler de surpopulation tant que, ouvrez les guillemets, la vallée du Mississippi possédera assez de terres incultes pour qu'on y puisse transporter toute la population d'Europe, fermez les guillemets. Il en sera de même tant qu'un tiers seulement de la terre pourra être considérée comme cultivée, tant que l'application d'amélioration déjà connue pourra porter au sextuple la production de ce tiers.